When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Je ne sais pas vous, mais j'ai toujours envie de savoir comment les gens mangent. C'est souvent une question que je pose quand je rencontre quelqu'un. Je suis Mélissa Bounois, j'ai co-créé Manger, et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver et de faire entendre une nouvelle voix dans ce podcast. Une voix que vous connaissez si vous aimez entendre parler de nourriture, c'est celle de Zazie Tabissian. Zazie présente un podcast Sony Music France qui s'appelle Dans le ventre. Dans chaque épisode, elle s'attable avec une personnalité, la bédéaste Pénélope Bagieux, le chef Maurice Sacco, l'auteur-compositeur-musicien Ben Mazué et plein d'autres. J'ai eu très envie que vous prêtiez une oreille à ces rencontres. Cela continuera ce que fait manger. Essayez de comprendre ce que notre rapport à la nourriture dit de nous. Bonne écoute.
Manger mal me rend triste. Manger des trucs pas bons, ça participe à ce que je me dis putain, quelle journée de merde, en plus la bouffe est dégueulasse quoi. Dans le ventre de Pénélope Bagieux. Dans le ventre de Pénélope Bagieux.
Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Pénélope Bagieux. Pénélope est illustratrice et autrice de bande dessinée. Elle a sorti notamment chez Gallimard, Sacrée Sorcière, l'adaptation du génial roman de Roald Dahl, ou encore Les Culottés, livre pour lequel elle a gagné le prestigieux prix Eisner. Pour appâter Pénélope, j'ai scrollé son Instagram, j'ai repéré ce qu'elle aimait bien manger et je lui ai proposé de venir déguster des fruits de mer dans le 11e arrondissement de Paris. Mon plan machiavélique a fonctionné à merveille. J'ai rendez-vous avec elle. Je l'attends. Ah, je la vois. Elle arrive.
Salut,
ça va?
Non, t'inquiète.
J'avais juste peur que tu... J'avais peur que...
T'avais un texto ou pas?
Ah non, tu m'as envoyé un texto?
Tu m'as dit envoie-moi un texto, ouais, je t'ai envoyé un texto.
Ah, tu m'as pas envoyé un
WhatsApp. Un quart d'heure.
Ah, t'inquiète. Déjà, attends, Pénélope, on est à Valville. Est-ce que tu connais ce quartier?
Ah bah oui, j'ai habité à Colonel Fabien environ toute ma vie jusqu'à mes 20 ans. Donc,
D'accord.
Carrément. Le président, c'était le resto où c'était pour les anniversaires.
Ah oui?
Les moments de fête. Après, j'ai vu que c'était devenu hyper hype plus tard. Quand j'étais adulte, je connaissais des gens qui disaient « On a découvert un petit endroit pour se faire des annives un peu kitsch, hyper rigolo, ça s'appelle le Président. » Mais c'est là où je faisais mes anniversaires quand j'étais petite.
Ouais, donc t'étais trop branchée déjà, quoi.
Bah ouais, sauf que c'était vraiment pas branché comme quartier. Hein. C'était...
Belleville, c'est là où on allait faire des courses. Tu vois, acheter des tonnes de... Genre, j'ai souvenir que ma mère faisait des stocks de raviolis, de banbao et de trucs comme ça dont on remplissait le congèle pour les jours où elle avait la flemme de faire à bouffer. Par ici, ouais, je te dis, c'était quand c'était pour aller au resto, parce qu'en fait, il n'y avait pas tellement d'autres zones un peu animées, cool. C'était soit ça, soit le vrai truc, où là, c'était vraiment, genre les 18 ans, tu vois, c'était d'aller jusqu'à la Gare de l'Est,
ouais.
Là où tu avais toutes les brasseries,
tu vois, genre le Doucet Est, tu sais, toutes les méga grosses brasseries qui sont en face de la gare, là.
Un peu les brasseries où tu manges de la choucroute, ce genre de choses.
Mais surtout, c'est là où il y avait des plateaux de fruits de mer.
Ah, oui.
Et ça, c'était vraiment le cadeau pour quand... Genre mes 15 ans, mes 18 ans, tu vois, et j'allais manger un plateau de fruits de mer. Et ça, c'était la très, très grande occasion, quoi.
On va là.
Génial.
Tu
une table vivante et bienveillante.
Ben non, mais du coup, ça a l'air super.
Salut. Tu peux manger, hein.
Bienvenue.
Ça va?
Ouais, je vais laisser la musique parce que...
Salut, Alès.
Salut, ça va?
Ça va? Oui.
Bonjour.
Et Pénélope.
Enchanté.
C'est trop bien. Est-ce que tu te rappelles de ton dernier resto avant fermeture des restos?
Moi, j'ai profité pas mal de l'interstice entre les confinements, là. J'ai tout donné à ce moment-là. Je sais pas mon dernier resto, mais ma dernière... Je me suis dit, ça va être la dernière fois qu'on va se faire un apéro quelque part. Et il faisait encore hyper doux, parce que grâce au réchauffement climatique, en novembre, c'était encore l'été. Et donc, j'ai fait un apéro en terrasse avec juste plein de bouteilles de rosé. Et des copines. Même, tu sais, il y avait une ambiance particulière dans le resto qui disait, bon, bah, à 22h, on ferme pour de bon, tu vois. Et il y avait un côté un peu, allez, salut. Et c'était assez cool.
Et ouais, c'était super. Après, j'étais obnubilée par le fait que je venais d'arrêter de fumer et que je me disais quelle injustice, mon dernier apéro avec des potes à mettre des caisses, je peux même pas fumer.
J'ai l'impression que t'aimes bien manger des trucs bons, mais c'est peut-être pas ce qui t'anime non plus au quotidien.
Est-ce que ça m'anime au quotidien, je sais pas, mais en tout cas, ça peut me rendre vraiment très triste de pas manger. Il y a peu de choses qui me mettent autant de mauvaise humeur que quand on est invité chez des gens à un horaire où c'est l'heure où on bouffe et qu'en fait il y a que des chips. Ça me met vraiment, ça peut me rendre hyper agressive en fait. Et après je dis, donc en fait on va chez eux à 9h et il y a pas à manger quoi. Pour moi c'est vraiment prendre les gens en otage. Je suis souvent aussi très agressive quand je suis dans des pays où on dîne tard. Ça, tu vois, je me dis il est 8h et on boit des coups, on pourrait pas bouffer à un moment. En fait ça me joue vachement sur mon humeur et je suis très bon public des gens qui cuisinent. C'est-à-dire que c'est super agréable de me faire à manger parce que je commente tout ce que je mange, je fais des bruits, je fais oh là là, et je suis désolée de revenir là-dessus, mais ta sauce est vraiment incroyable et tout. Je suis vraiment un super bon public pour ça.
Et est-ce qu'enfant, t'aimais déjà à manger ?
Ouais, carrément. Et puis, comme tout le monde, je pense que c'est un truc familial aussi. Moi, j'ai été un peu élevée à quatre mains par ma mère et ma grand-mère. Pas de la même lignée, quoi, ma mère et ma grand-mère paternelle. Et ma mère, qui pourtant bossait, élevait seule des gosses et tout, réussissait par un mystère que j'arrive toujours pas à m'expliquer à ce qu'on mange quand même pas trop mal. Et ma grand-mère, elle, c'était... elle nous gavait comme des oies, quoi, vraiment, mais avec que des trucs délicieux. Et elle nous achetait vraiment notre affection par la bouffe, c'est-à-dire en faisant à chacun son truc préféré, en étant tout le temps dans la démesure et tout.
Pas.
Non.
Un
c'est
peu. Ouais, on peut faire surprise.
Ouais, ok, ça marche très bien. Je vous présente tout ça quand ça sort du coup.
Bah, tu vois, là, par exemple, j'ai des petits picotements de joie. C'est vraiment Noël quand on me dise alors, tout est prêt, on est en train de te faire à manger, tu ne sais pas ce que tu vas manger, mais tout va déboîter. Bah, j'ai 6 ans et demi. C'est comme si tu me disais je vais te lire une histoire et te gratter la tête. Je suis trop heureuse.
Mais donc tu me disais que tu aimais déjà manger quand tu étais gosse et ta mère et ta grand-mère faisaient très bien à manger.
Oui.
Et quand t'étais gosse aussi, t'aimais déjà dessiner. Ça, c'est fou. Est-ce que toi, tu t'imaginais à ce moment-là que t'en ferais ton métier ou pas du tout ?
Quand j'étais vraiment petite, je disais que j'en ferais un métier, mais après, la réalité te rattrape vers 6 ans et tu apprends un peu les métiers Playmobil, quoi. Donc, tu te rends bien compte que dessiner, c'est pas un métier. Mais quand j'étais vraiment toute petite, c'est vraiment ce que je voulais faire. Je voulais vendre mes dessins dans la rue. Donc, si, j'y croyais vachement. Et puis après, il y a un long ventre mou de l'ambition avec l'adolescence et tout ça, où tu te dis, bon, il faudrait peut-être que je réfléchisse à un vrai métier. Et puis en fait, pas besoin de réfléchir à un vrai métier. Voilà.
Alors, les avec une huile à la bergamote et des petites noisettes du Piémont. Voilà.
C'est très beau.
C'est très beau. Gentil, merci.
Tu as fait des arts déco et assez vite tu t'es mis à vivre de ton dessin.
Bah ouais, moi j'ai eu trop de chance. J'étais hyper angoissée par l'idée de pas gagner ma vie, donc j'ai commencé à essayer de travailler pendant que j'étais à l'école. Et le temps que ça se mette en place, ça s'est super bien enchaîné. C'est-à-dire, j'ai mon premier boulot payé en illustration. J'étais en train de soutenir mon mémoire. Donc vraiment, j'ai eu un glissement entre les deux super. Je gagnais pas. Très bien, mais en tout cas, j'arrivais à me dire que c'est un truc qui pouvait payer mon loyer, ce qui est tellement le bout du monde quand tu dessines, déjà te dire je paye mon loyer en dessinant, c'est du rêve en fait.
Pourquoi t'étais aussi stressée de pas avoir de travail ?
J'avais grandi sans argent. Franchement, c'est la clé. Hein. C'était une réalité que j'arrivais, qui me paraissait être la plus probable. C'est-à-dire que je me disais bon bah a priori je gagnerais pas d'argent, a priori je vais galérer. Ce serait vraiment génial que j'arrive à payer mon loyer. C'est-à-dire que c'était un objectif de loyer juste parce que. J'ai pas non plus grandi avec tellement d'argent, on comptait tout. Tu vois, parfois quand je repense à des trucs de mon enfance, quand je raconte ça à des potes, ils me disent « Mais tu nous racontes du Zola ?» Mais tu sais, par exemple, on n'avait pas le téléphone fixe chez moi, parce qu'il était toujours coupé, parce qu'on le payait pas. Et il y avait tout le temps des avis de passage d'huissier sur la porte et tout. Enfin, et du coup, c'est un truc qui a toujours été hyper une angoisse. Et j'avais des rêves de confort moyen, tu vois, vraiment. C'est-à-dire que je me disais pas « J'aimerais trop être millionnaire. » Je me disais « Oh, tu sais, genre, j'aurais un appart, je paierais mon loyer, je ferais mes courses et tout. » Mes rêves fous, c'était ça, quoi. Il y avait un décalage, c'était que mes grands-parents, du côté paternel, eux avaient du fric, en fait. Donc quand j'allais chez eux, en fait j'avais un peu un pied dans chaque truc parce que du côté de ma mère, faire du bon avec du pas très cher. Et chez ma grand-mère par exemple, ma grand-mère me disait « Alors Pénélope, je t'ai préparé ton truc préféré, de la sole. » Et à chaque fois que j'allais, je bouffais de la sole et je disais à ma mère « C'est con que t'achètes jamais de la sole, c'est trop bon comme poisson. » Et elle me disait « Ouais, super. » Tu vois, chez ma grand-mère, c'était vraiment « L'argent n'est pas un problème. »
Est-ce que c'était bon ce que tu viens de manger ?
C'était complètement fou. Mon assiette est très propre. Hein, tu vois, mes assiettes sont bien propres après. C'était délicieux. C'était incroyable. La petite Saint-Jacques toute fine, toute crue, il n'y a vraiment que parce qu'elle est très fraîche que c'est aussi bon, je pense.
On s'est régalé, c'était super bon. Et est-ce que tu te souviens du coup quand tu as commencé à être plus à l'aise financièrement et d'un coup tu t'es dit waouh, je peux acheter ce que je veux ou je peux me faire une grande bouffe?
Dans les trucs que j'aime bien faire et où je me dis allez zou, l'argent n'est pas un problème, c'est quand j'invite des copains à dîner. Et que je vais, et pour moi c'est vraiment des trucs, c'est fou comme j'ai vraiment des rêves de petite bourgeoise, mais c'est me dire je vais chez le boucher et j'achète genre tu sais un filet mignon, un beau truc, et je le fais au four et j'ai l'impression d'être Brivante de Camp quoi. Je me dis je suis vraiment une grosse daronne, j'ai une table assez grande pour inviter 6 personnes à dîner et j'ai fait une bouffe de bah, du dimanche chez les parents qui ont de l'argent, tu vois c'est con mais tu dis j'achète un truc de viande et avec je fais des patates, des trucs et ça c'est, je sais pas, je me dis ok c'est cool d'être assez à l'aise pour que ça ce soit, ça puisse être hebdomadaire quoi.
Oh là là, mais c'est tout ce que j'aime dans la vie. Bon, bah c'est parfait. C'est
qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est ? Du coup, vous avez une saucisse de cochon, donc c'est de l'épaule et de l'échine avec de la truffe. Vous avez du butternut rôti avec des cèpes et des petits oignons avec une gelée de coin et un petit jus de viande.
C'est magnifique. Voilà. C'est une caméra cachée, tellement c'est tout ce que j'aime.
Ah, mais c'est parfait. Tellement contente. C'est parfait.
Merci.
Régalez-vous bien.
Oh là là. Mais attends, c'est une merveille. Je voudrais qu'elle fasse 1 km et que ça dure 1 heure. C'est tellement bon.
Mais c'est incroyable. Oh là là, on a l'impression d'être dans la forêt quand on mange ça là. Oh là là, mais cette sauce là.
Et en fait, j'ai réalisé que tu étais très fan de musique, toi aussi. Peut-être que tu dessinais plus de scènes, d'ailleurs, qui impliquaient de la musique que de la bouffe.
Ouais, ouais, plus même que ça. Je pense que je suis plus fan de musique que de n'importe quoi, que même de dessin, de BD, tout ça. C'est vraiment ma passion. Ouais. J'ai une famille très musicienne, quoi. Où, bah, tu vois, typiquement, c'était pas pensable qu'on n'ait pas. On pouvait être nul à l'école. Il n'y a pas de problème, c'était pas du tout une pression, on s'en foutait, mais c'était pas possible de pas faire de musique du tout, quoi. Ça, c'était vraiment comme ne pas se brosser les dents, c'est... Voilà. Mais après, moi, je suis une mauvaise musicienne, mais ça reste indispensable dans la vie.
Mais t'es une mauvaise musicienne, mais t'es une grande fan de musiciens.
Ouais, je suis vraiment une groupie, même. J'ai un côté hyper groupie d'aimer tellement la musique que ça déborde et ça me fait aimer les gens qui font la musique. Et un truc qui me fascine toujours chez eux, c'est quand je leur demande par quel mécanisme magique ils arrivent à inventer de la musique, ce qui pour moi est vraiment une forme de super pouvoir. Et j'adore la simplicité avec laquelle ils disent bah, « Tu sais, on a tous dans notre tête parfois des petites musiques. » Je dis « Mais non, en fait, mais pas du tout. » Enfin, vous vous rendez pas compte que c'est ça le génie, c'est d'inventer de la musique. Moi, si j'invente une musique, tu peux être sûr que c'est juste un truc que j'ai entendu il y a 2 semaines. J'invente rien, quoi. Et ça, je suis subjuguée par cette grâce qu'ils ont, quoi.
Après, j'imagine que le dessin, ça fait ça pour beaucoup de monde. J'aurais beau toujours dessiner, je dessinerais toujours le même bonhomme de quand j'avais 5 ans. J'ai aucune idée de la perspective.
Pardon, mais tu te trompes. Pour moi, le fait d'avoir un dessin qui a de la grâce, c'est 90% du geste. Donc, c'est du travail, vraiment. Et même, tu vois, ce truc de perspective, si vraiment c'est un problème, ça s'apprend, en fait. C'est comme être un... Il n'y a même pas une aptitude naturelle physique comme pour le sport où on dit c'est du travail plus un physique de base. En dessin, même pas. Il n'y a pas à avoir une bonne main ou des bons yeux, tu vois, vraiment. C'est du travail. Et après, c'est une bonne digestion des influences graphiques. C'est-à-dire, c'est une petite partie de culture graphique. À force de voir des belles choses, ça, mine de rien, ça te laisse une empreinte. Et un travail du geste. Mais ce n'est pas possible si demain, tu décides que dans un an, tu sais dessiner. Dans un an, tu sais dessiner. C'est vraiment que du boulot, en fait. La seule chose que toi, tu vas apporter, ta valeur ajoutée, c'est décider de mettre en lumière quelque chose que personne d'autre que toi n'avait vu, tu vois, et dire, c'est magnifique, ce bouquet, avec cet angle-là, je vais le dessiner. Mais la façon de dessiner le bouquet, dans un an, tu sais le dessiner parfaitement. Et à part ça, le talent ou le don, tu vois, j'y crois pas trop. Et quand je rencontre, par exemple, des très jeunes gens qui ont envie d'être conseillés un peu et qui ont envie de faire ça, qui disent qu'est-ce que c'est le conseil, le machin, et ben c'est bon, bah bosser. Et aussi, franchement, si vous en avez pas marre après avoir dessiné 10 heures dans la journée, c'est que c'est bon, vous avez le diplôme, quoi. Parce que ça va être ça, le seul prérequis pour en faire ton métier.
On a fini.
Ouais.
Ouais.
Ouais, on a un peu
pu en manger une deuxième ce midi.
C'était super bon.
C'était tellement bon.
C'est gentil, merci. Je transmets à l'aise.
Je regardais évidemment aussi ce que tu dessinais comme aliment ou comme plat. Dans Sacré Sorcière, il y a une scène dans une cuisine où tu as du homard et c'est hyper drôle parce qu'il est personnifié en fait. C'est un homard qui n'a pas envie de passer à la casserole. Est-ce que c'est facile de dessiner des aliments ?
Non, je trouve ça hyper dur et j'arrive jamais à rendre, peut-être parce que je m'y suis pas assez attelée, mais j'arrive jamais à rendre un truc qui fasse envie. Je trouve que c'est super dur de dessiner de la bouffe. Et quand je dois dessiner des gens qui sont à table, je leur fais toujours l'assiette, tu sais, l'assiette des repas américains dans les séries, quoi. Genre une viande, des petits pois et un truc jaune non identifié à côté. J'arrive pas à rendre la brillance de la bouffe. Je pense que c'est hyper dur. Tu vois, j'ai souvenir les scènes de banquet d'Astérix, par exemple. Il y a vraiment un génie dans le fait de donner envie de bouffer du sanglier, quoi. T'as envie d'y être, ça fume, ça a l'air délicieux.
On a tous eu envie de manger le sanglier,
c'est vrai. Je trouve que dessiner de la musique et dessiner de la bouffe, c'est des trucs vraiment difficiles.
Et tu peux parler de tes prochains projets ?
J'en ai pas. Je fous rien et j'ai aucun projet.
Et est-ce que c'est grave ?
Pas du tout, c'est complètement cyclique et tout va bien, c'est normal. Il faut pas que ça dure plus d'un an, quoi. Voilà. Mais si pendant un an j'ai pas d'idée, c'est très normal et tout va bien. Et puis cette année, elle a compté pas comme les autres, quoi.
Et comment elles viennent, tes idées ?
Eh ben, un petit peu tout le temps, des petits bourgeons d'idées. Et puis il y en a 99% qui en fait sont des idées de merde et qui meurent naturellement de leur belle mort avec le temps. Et puis si quelque chose survit à tout ça et que des mois après je suis toujours obsédée par une idée, c'est qu'il y a un truc à faire, quoi. Mais il faut, c'est pour ça que ça prend du temps aussi, quoi. C'est qu'il faut, voir si elle dure ou si c'est une lubie qui, déjà quand je l'ai racontée à deux personnes, me paraît déjà un peu genre ouais, en fait c'est un peu nul. Une obsession, c'est une bonne base pour écrire une histoire.
Tu prends un taxi ?
Je pense, ouais, parce que. Ou alors tu prends la 2 et la 12. Je vais à la marque. Peut-être pas plus tôt, en fait. Peut-être aller plus vite en.
La 2, bah oui, t'es plus près de Claude Intervien, là, je pense.
Ouais, 137. Ouais, qu'est-ce que j'ai dit ? 137 rue Marcadet. Ouais, ça m'a l'air bien au nord. Je sais pas si c'est pas mieux de prendre la 2 et la 12. Bon, bah, génial. Merci, écoute.
Ça m'a fait
toute la semaine. C'est vraiment la meilleure interview de la vie.
Merci beaucoup.
Je t'en prie.
Vous savez maintenant que si vous voulez apprendre à bien dessiner, ce n'est qu'une question de persévérance. Je ne pense pas que je vais m'y mettre, mais je sais que je retournerai manger chez Candide, la superbe table tenue par Camille et Alessandro. Pour retrouver les actus de Pénélope Bagieu, je vous conseille de la suivre sur son Instagram, où elle poste même parfois des recettes alléchantes dans ses stories. Dans le ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazie Tavissian et réalisé par Geoffrey Puitsch. Merci au groupe Bagarre pour l'utilisation de leur titre Malouve dans notre générique et merci aussi au laboratoire de Sony CSL pour la collaboration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. En attendant, n'oubliez pas, bien manger, c'est bien. Bien manger, bien accompagné, c'est encore mieux.
Et qui tu inviterais ? Si tu avais ton dîner où tu pouvais inviter, disons, allez, trois personnes de tout temps, enfin même des morts, quoi, à dîner ensemble.
Et c'est moi qui fais à dîner ?
Non, tu peux faire appel à un traiteur.
Parfait, parce que sinon c'est chiant. Qui j'invite à un dîner, vivant ou mort, Dolly Parton, j'invite Christiane Taubira et j'invite Peggy Guggenheim. Je pense que franchement, on a des anecdotes pour faire jusqu'à 5h du mat.
T'invites que des femmes ?
Bah ouais.
T'invites pas des chanteurs de. T'invites pas des chanteurs de rock, quoi.
Mais non, j'ai pas envie de les avoir à dîner, je m'en fous. Non, m'intéresse pas du tout.
Vous venez d'écouter un épisode de Dans le Ventre, un podcast Sony Music France présenté par Zazie Tavissian. Si vous voulez écouter tous les épisodes du podcast, ils sont disponibles sur toutes les plateformes.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.